ce que je voulais faire dans la vie, c'était être sur des skis.
On imagine souvent qu'être moniteur de ski, c'est un métier de rêve. La neige, le ciel bleu, le ciel d'hiver. La montagne comme bureau du jour, tous les jours. Mais derrière ce métier, les vestes rouges, il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Caméra à la main, supporté par mon fidèle assistant snowboarder, je pars aujourd'hui à Orcières 1850, dans les Alpes du Sud, à la rencontre de trois moniteurs et monitrices de la station. Trois profils bien différents. Il y a Sébastien qui passe ses journées à rassurer, corriger, protéger.
Ça y est, c'est fini le chagrin.
Je vais le suivre sur les pistes, en ski, en snow ou pas. Mais également au jardin des Piu-Piu, où le métier est bien différent de ce que vous imaginez.
Sachez que ce que vous faites à la maison, vos enfants ils nous disent tout.
Il y a aussi Alizé, ex-championne de haut niveau en ski cross.
Je crois que j'ai jamais réellement rêvé d'être championne. Par contre, je voulais être monitrice.
À 33 ans, et après ses participations aux JO d'hiver en 2018 et 2014 à Sochi, elle est déjà retraitée. Aujourd'hui, monitrice à Orcières, elle partage son exigence et son expérience pour former les autres moniteurs. Je vais l'accompagner entre préparation d'une compétition européenne, transmission et coulisses invisibles du sport.
Bosse du mur de la FAVU, en fait, c'est l'accès qui se fait par les gendarmes.
Et enfin, Gérard. Gérard dit baraqué, 71 ans.
Et on reste pas en extension, bien sûr. Hein.
Non,
on revient de suite en section. Hein.
Okay.
C'est son père qui tenait le premier bar de la station, une station qu'il a vu grandir. Il a vu le métier évoluer et il continue d'enseigner pendant les vacances scolaires, quand tout le monde veut faire du ski en même temps. Dans sa famille, la montagne, c'est une histoire de génération et de tradition autour du Génépi. Mais attendez un peu, on ira voir ça tout à l'heure. Entre passion, parfois fatigue, sécurité et héritage, je vous dévoile une partie de la réalité d'un métier qu'on idéalise tous, au-delà du cliché. Moniteur de ski, la face cachée d'un job de rêve.
Allez, on y va. Donc, on part tout de suite le talon levé et après on change quand on fait le virage.
Le cliché le plus souvent, ce qu'on peut entendre, c'est ouais, vous êtes des vendeurs de virages. Alors que ça paraît très simple de dire ouais, moniteur de ski, il suffit de voilà, s'occuper des enfants et ils te suivent et puis voilà. Alors qu'en réalité, c'est un métier qui est extrêmement complexe sur la technicité du ski. Comment amener un élève qui ne sait pas du tout skier à faire des virages en chasse-neige. Une fois qu'on lui a mis le chasse-neige, on lui permet de savoir tourner, freiner, etc. Et jusqu'à un niveau même compétition et Coupe du Monde. Hein. Avant de tourner les skis vers le bas, tu regardes en bas et tu viens te pencher vers le bas comme ça, tu vois.
C'est rigolo parce qu'avec certains enfants, ils ont du mal à concevoir que je suis payé pour leur donner des cours. C'est-à-dire qu'ils me disent « Mais tu fais quoi, toi, dans la vie ?» Je dis « Ben, moi, je suis moniteur de ski. » C'est un cliché qui a encore un peu la vie dure, mais de plus en plus, notamment ben, avec ce que je peux partager sur les réseaux sociaux ou les discussions que je peux avoir avec mes amis où je leur explique la technicité qu'est aujourd'hui le diplôme de moniteur de ski, ils se rendent compte que c'est un vrai métier.
Et toi, t'as quel âge, Mélia ?
13 ans.
Ah ouais. Moi, quand j'étais petit, alors je rêvais pas de devenir moniteur, mais par contre, mon rêve, c'était d'être sur les pistes. Donc j'ai commencé le ski, je devais avoir 2 ans ou 2 ans et demi. Et donc très vite, j'ai accroché avec le ski, j'ai eu ma 3e étoile, je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans. Et là, en fait, moi, ça a été la révélation. C'était ce que je voulais faire dans la vie, c'était être sur des skis.
Et toi, donc, tu es moniteur depuis combien de temps ?
Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis moniteur depuis 2010 et j'ai jamais terminé mon diplôme. Donc,
ah
en
oui ?
Fait, si on termine pas le diplôme, au bout de 4-5 ans, on peut plus enseigner. Donc j'ai enseigné de 2010 à 2016.
D'accord.
J'ai fait plein d'autres trucs à côté. J'ai passé un master de droit pénal.
Et en arrivant au bout de mes études, je me rends compte que le métier pour lequel j'avais suivi ces études ne me plaît pas. Donc j'ai eu ma vie, j'ai rencontré ma femme actuelle, etc. En 2023, à l'époque j'avais peut-être 30-31 ans, et je me suis dit j'ai l'âge pour assumer le fait que j'ai envie d'être moniteur.
Sébastien décide donc de reprendre ses études de moniteur de ski à zéro. Pour vous expliquer ça dans les détails, on quitte quelques instants Sébastien pour aller à la rencontre d'Alizé Baron. Comme j'ai commencé à vous l'expliquer, Alizé est une championne de haut niveau en ski cross, jeune retraitée, et aujourd'hui monitrice de ski à Orcières.
crois que j'ai jamais réellement rêvé d'être championne. Par contre, je voulais être monitrice. Donc finalement, en fin de carrière, c'était assez logique de me tourner vers le monitorat.
Et ça, c'est la médaille
de monitorat. C'est ça. C'est à ça que vous voyez qu'un moniteur est médaillé, a fini son cursus ou pas.
D'accord.
Et c'est une très grosse fierté parce que le cursus est assez long, assez difficile. Quand on arrive au bout et qu'on est médaillé, c'est une vraie reconnaissance. C'est pas une médaille olympique ou au championnat du monde, mais pour un moniteur, c'est une vraie belle reconnaissance.
Concrètement, comment devient-on moniteur de ski? Eh bien, tout démarre à l'ENSA.
L'ENSA, c'est l'École nationale de ski et d'alpinisme. C'est là où sont formés les futurs moniteurs. Le cursus vraiment monitorat, aujourd'hui, il est divisé en 10 stages. Si tout se passe bien, il faut environ 3 ans et demi pour réussir. Pour rentrer dans cette formation-là, il y a ce qu'on appelle un test technique. C'est un slalom qui est chronométré où il faut faire un certain temps. Ensuite, on rentre dans la formation. On a 15 jours de formation initiale, ce qui nous permet d'enseigner uniquement les débutants au début. Et ensuite, on a de nouveau une épreuve chronométrée, cette fois-ci en géant, qui, elle, va nous ouvrir les portes de tout le reste du cursus.
Quand tu es moniteur de ski, aujourd'hui, le diplôme t'impose d'être aussi moniteur de snowboard.
Pour être là aussi dans le détail, Sébastien, lui, peut donc enseigner dans tous les niveaux. Mais comme il n'a pas entièrement terminé son cursus, interdiction d'emmener ses élèves en hors-piste.
En fait, le hors-piste, c'est le dernier module qu'on passe, donc c'est 2 semaines. Et on nous apprend, au-delà de juste enseigner en termes de pédagogie, c'est surtout enseigner en sécurité un groupe en dehors du domaine skiable.
La sécurité, c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des monitrices et des moniteurs. Tiens, je vous raconte les coulisses de ce tournage. Avec Sébastien et Alizé, on part tourner de belles images en snow et en ski. Le temps est idéal, la piste est dégagée, alors on accélère un peu, beaucoup. Et c'est Sébastien qui gère la caméra 360 au bout de la perche.
Alors celle-là, elle est vachement bien.
Alors on va démonter un autre cliché.
Voilà, le moniteur
ne tombe jamais. Jamais.
Bon, sur le coup, la chute laisse donc place à une bonne vanne et un chouette cliché. Mais honnêtement, j'étais 20 mètres derrière et j'ai eu très peur quand je l'ai vu lourdement chuter.
Ouais, ouais, ça va. C'est juste...
Alors on fait une pause, on coupe la caméra. Je vous remontre la chute, pas pour le plaisir, mais pour bien prendre conscience que sans son casque, on aurait certainement beaucoup moins rigolé.
Le casque, obligatoire ou pas obligatoire?
Alors, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, pas en France en tout cas. Et les moniteurs n'ont pas l'obligation de le porter, mais on est quand même de plus en plus nombreux à le porter. Moi, j'ai fait le choix de le porter, notamment en étant papa. Un, il faut montrer l'exemple. Deux, on est des professionnels et donc il y a ce côté un peu... À la fois l'exemple et à la fois, pour moi, le côté sécurité, encore une fois, c'est super important.
Quand on est en cours de ski, qu'on a nos enfants derrière ou nos adultes, on peut se faire rentrer dedans. Et justement, plus on est à basse vitesse et plus je trouve qu'on est sujet à cette collision-là. Et aujourd'hui, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que les gens qui viennent en vacances au ski n'ont pas forcément conscience du danger. Nous, on est confrontés à ça tous les jours et on sait qu'un accident peut être grave, voire même mortel. Et je pense que la personne en vacances n'en a pas totalement conscience et des fois va au-delà de sa limite.
Après ce petit moment frisson, on change de rythme et de génération de moniteur. J'appellerai ça la génération Force Tranquille avec Gérard, dit Baraké.
Ça va, je suis, mais il ne faut pas plus, hein. Gérard,
oui,
parce
oui,
qu'après,
oui.
Avec la caméra, j'arrive bien à suivre.
C'est normal, hein. En plus, moi, j'en fais un peu tous les jours, donc...
Ouais. Allez, ben, on va aller voir nos élèves,
à condition qu'ils soient là, quelle heure est-il?
C'est un peu une tradition, les moniteurs ont souvent un surnom, hérité d'exploits sur les skis, ou pas.
Je ne voudrais pas rentrer dans un cliché, justement, du moniteur de ski, non, mais ça me vient de l'école, déjà, hein. Beaucoup de jeunes du coin ont des surnoms. Mon frère, c'était Rino. J'ai un autre frère qui s'appelle Biquet. Et ainsi de suite, chacun un surnom. Pourquoi Baraké? Je ne sais pas. Peut-être du ski, ça venait peut-être du ski, puisque quand j'étais jeune au ski club, je me débrouillais pas mal. Donc, attends, je regarde un peu ta flamme, là. Oui! Ah, c'est bon, ça. Voilà, c'est cool, tu vois. Moi, je suis moniteur retraité. Donc, pour le moment, je suis encore inscrit à l'école des skis. Ils m'appellent quand ils ont besoin de moi, au niveau des cours. Et on ne reste pas en extension, bien sûr. Hein.
Non, non.
On revient de suite en flexion. Hein.
Okay.
Beaucoup de personnes veulent aller au ski le matin. Donc, ça concentre le travail sur le matin. Et comme il faut se mettre au service de la clientèle, tous les moniteurs sont appelés le matin et il en manque.
Là, tu peux te mettre à
la terrasse. Il faut prendre la petite piste bleue le long de la montagne, c'est ça?
La verte, il faut prendre. Non, 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 non.
Ah ouais?
Je vais vous emmener jusqu'au resto et puis après, si ça vous dit, vous restez là-haut, sinon on redescendra.
Ça va.
Ça va.
On passe par où? Et là, on va retrouver donc la piste verte qu'on a faite tout à l'heure. Okay. Est-ce que tu l'as trouvée dure, celle-là?
Non, pas du tout.
Hein?
Ah, la couleur des pistes. Ici, pendant 4 à 5 mois, c'est LE sujet de tous les skieurs pour tous les moniteurs.
Le gros cliché, alors ça, ils sont ultra focalisés sur vert, bleu, rouge, noir. Et des fois, souvent les adultes, ou même des fois les enfants dès l'âge de 10-12 ans, c'est l'objectif en fait. Et quand c'est qu'on va aller faire une rouge? Quand est-ce qu'on va aller faire une noire? Et nous, en tant que professionnels de la montagne, on sait très bien qu'une verte, elle peut être extrêmement difficile suivant les conditions d'enneigement. Et inversement, une noire en fin de saison où la neige est très molle peut être très accessible à tout le monde.
Allez, autre idée reçue, le ski c'était mieux avant, est-ce que ça a vraiment changé? Je suis allé puiser dans les archives de l'INA et j'ai retrouvé ces images tournées à Orcières il y a quelques dizaines d'années.
Ta réaction par rapport à ces images qui datent des années 60 et des années 70. Je te laisse faire play, je crois qu'on va juste mettre du son. Ouais.
Plus de 60 moniteurs du comité Alpes-Provence s'alignaient au départ de cette épreuve où les difficultés n'avaient pas été écartées. Pour le deuxième parcours, véritable forêt de fagnons plantée dans une piste très pentue, c'est Germain Coco de Serre Chevalier qui afficha le meilleur temps.
C'est incroyable ces images.
268 candidats et 168 réussites seulement après 3 jours de stage. Une réussite qui ne leur donnera pas le droit d'enseigner, mais de tenter ensuite l'examen de premier degré de moniteur de ski.
Foncièrement, elle n'a pas tant changé la technique. Je pense que les fondamentaux sont quasiment les mêmes. Par contre, c'est le matériel qui a tellement évolué que du coup, les silhouettes ont changé. Mais les mécanismes vraiment du ski, en soi, c'est toujours les mêmes. C'est la méthode française, c'est celle que moi j'ai appris.
Après, il n'y a pas que le ski, il y a les pistes aussi qui sont très entretenues. Là, sur les images que vous m'avez montrées, on voit bien que même dans le slalom, il y a des bosses, ça n'a pas été damé avec des machines. Hein.
Il y avait ce côté très uniforme et très presque un peu guindé du ski. C'était souvent beaucoup le paraître. Aujourd'hui, ça peut être encore un petit peu le cas. Hein, quand on est sur les skis, on a envie d'être beau, on a envie d'avoir un beau casque, un beau masque, etc. Mais par contre, c'est devenu moins, je trouve, un sport chichi-pompon. C'est devenu plus un sport de performance pour le coup.
Le week-end, par exemple, les jeunes montent et eux, ils cherchent la vitesse. Se faire plaisir sur les skis, aller très rapide, quoi. Alors que les skieurs à la semaine, ils sont un peu plus techniques.
Par exemple, cette extension pour venir tourner, c'est quelque chose qui est encore présent dans notre ski. À l'époque, c'était le Christiana, où on venait vraiment chercher notre jambe en faisant une espèce d'extension pivotée pour permettre à la fois aux skieurs d'alléger les skis et de venir les faire pivoter pour tourner. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve justement jusqu'à notre niveau 3e étoile, où le mécanisme pour tourner, ça s'appelle l'extension pivotée. Mais on se rend compte de plus en plus que cette extension pivotée est peut-être pas utile, ou en tout cas, elle peut nous gêner dans la progression ensuite de notre skieur. Ça, c'est un vrai débat de théoriciens du ski, hein, mais il y aura les pour, les contre.
La discipline s'est élargie aussi. Aujourd'hui, on peut faire du snowboard, on peut faire du baby ski pour les enfants qui ont moins de 3 ans. Et je pense que les volontés et la démarche est vraiment différente et c'est surtout ça qui a évolué.
Ce qui n'a pas changé ici sur les pistes, c'est le petit secret de Baraké. Un secret caché dans ses bâtons.
T'as quoi dans les bâtons?
C'est incroyable ça. Alors, ben là, j'ai la petite réserve de genépi quand il fait froid.
C'est tellement... Ça, c'est cliché ça quand même.
Un peu. Mais bon... Il faut bien survivre quand même avec un temps pareil.
Ah oui.
On se rapprocherait presque d'un film bourré de clichés sur les vacances au ski. Hein. Je suis sûr que vous avez la ref, monsieur Duss.
Le cliché drague l'homme et après ski.
C'est pareil, c'est un cliché qu'on nous ressort beaucoup. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a tourné sur Internet ou à quelqu'un qui faisait une parodie du moniteur de ski avec son élève Natacha.
Oh là là, Natacha. Ça a donné, hein. Oh là là.
C'est un... Anastasia. Ou Anastasia, peut-être.
Je
la
regarde.
Ah ouais.
Anastasia, tu skis vraiment très très bien. C'est bluffant. Clac, bam, bam.
Ouais, j'ai envie de dire à 60% vrai, 40% faux. C'est-à-dire que oui, quand on est jeune, forcément, l'uniforme peut plaire à certaines personnes.
La combinaison parfaite entre humilité, élégance et charisme.
Mais je pense qu'au final, ces clichés, c'est ça qui plaît aussi. Et je pense que quelque part, il y a toujours cette démarche-là d'aller voir le moniteur, la monitrice en elle-même, comme au même titre que des pompiers ou policiers ou des choses comme ça, ce genre de métier-là qui font quand même rêver.
Et ben alors, t'es tombée ma cocotte.
Après, honnêtement, la plupart aujourd'hui, c'est mon cas, on est mariés, on a des enfants, donc moi je suis plus un dragueur, hein, je suis moniteur de ski, quoi.
J'ai pas le droit. Oh, c'est très mal vu. J'arrête, vilain.
Ça a existé beaucoup et je pense que j'en ai beaucoup profité. Mais maintenant, je sais pas, bon, maintenant je vais plus dans les boîtes de nuit, donc je peux pas vous dire.
Baraké est beaucoup plus sage aujourd'hui. Quand il n'est pas sur les pistes, il est avec son fils, Thomas, qui fabrique la liqueur de Genépi dans son atelier. Avant de retrouver Alizé en pleine préparation d'une Coupe d'Europe et Sébastien sur les pistes du Jardin des Piou-Piou, je vous propose un peu d'histoire et de culture générale. Changement de décor, on enlève la neige. La liqueur de Genépi est élaborée avec du Genépi exclusivement ramassé dans les Hautes-Alpes. La plupart des fleurs sont récoltées sur la commune d'Orcières et même directement dans le parc national des Écrins. Plante rare et solitaire, la fleur de Genépi pousse uniquement en montagne, dans les lieux où elle n'a pas de concurrence, à partir de 2000 mètres d'altitude, dans les barres rocheuses. Sachez que c'est une fleur protégée, interdite à la cueillette. C'est pourquoi la famille de Baraké a mis en place sa propre culture de fleurs, comme dans ses champs par exemple. Et même l'hiver, sur les pistes, Gérard n'hésite pas à faire une pause pour expliquer cette tradition et la culture de la fleur.
Tu vois, il y a un petit chalet là, et il y a quatre arbres. Et ben, on a les plantations juste en dessous là.
On fait macérer les fleurs de Genépi dans l'alcool. Après, on sort les brins de Genépi et on les envoie chez notre traiteur ici à Pont-du-Fossé qui fait de la terrine avec. Les petits bonbons au Genépi également. Et notre fromager qui nous fait de la tomme et de la raclette au Genépi.
Le Genépi Guillaumette est devenu une institution au fil des années. Et sachez qu'ici, Lise la vendeuse et Thomas sont à la base des monitrices et moniteurs de ski.
Est-ce que vous allez faire du ski ensemble tous les deux ? Toujours un petit peu de temps en temps ?
On essaye le plus possible, oui.
Ouais.
Pour les conditions parfaites.
Et qui skie le mieux des deux ?
Je suis un peu plus fougueux et... lui, il est un peu plus classe. C'est à l'ancienne, quoi.
Bah, ça vous manque pas aussi d'être moniteur hein ?
Ben, c'est différent, c'est sûr qu'il a fallu faire un choix. On arrivait dans un moment où voilà, il fallait qu'on développe la partie entreprise avec le Genépi. Du coup, maintenant, quand on va sur les pistes, c'est plutôt pour y aller en famille, justement, ou vraiment le côté plaisir, plutôt perso que de donner du plaisir aux clients.
Et côté plaisir, dans la boutique, j'ai même retrouvé les bâtons de Baraké pour le Genépi.
Je crois que c'est ce qu'il faudrait, en fait. Hein.
Exactement ce qu'il faudrait.
Santé.
Santé.
Santé,
bonheur.
Retour à la station avec Sébastien. Il est 7h. Ici, nous sommes au Jardin des Piou-Piou. Les pistes ont été damées pendant la nuit et ce sont les rouges qui doivent tout remettre en place, tout sécuriser. Oui, ça fait partie du travail. Bientôt, plus d'une centaine d'enfants vont débarquer. Des enfants qui glisseront sur des skis, une grande première pour certains.
À Orcières, on est un, voire le plus ancien jardin des neiges de France. C'est une idée qui a été ramenée par une monitrice des États-Unis. Et c'est un environnement qui est complètement clos du reste de la station. On tourne tout autour du jeu, de la magie, des animaux. Donc c'est vrai que nous, on aime bien venir ici avec les tout-petits. Moi, ce que je trouve fou quand même en tant que moniteur, c'est que les parents nous confient leurs enfants avec une confiance absolue. Donc voilà, on se doit aussi, nous, de notre côté, d'être à la hauteur au regard de cette attente. Ouais, irréprochable, complètement. Puis après, moi, je suis papa aussi, donc je sais ce que c'est que de confier mes enfants à des adultes qu'on ne connaît pas forcément. Et oui, avant, il était à l'abri parce qu'il y avait trop de vent, il voulait pas sortir le nounours.
Cette semaine, j'ai les pioupiou, donc qui ont à partir de 3 ans et jusqu'à 4 ans maximum. Ils font pas encore tout à fait le chasse-neige, ils tournent pas du tout. Mais on pleure plus, hein. Ça y est, c'est fini, hein, le chagrin. Hein. Ouais. Allez, on y va. Oh, viens là, viens là.
Ça va.
Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou?
Maman, oh bon, non.
Est-ce qu'elle te regarde quand tu fais du ski, tu crois?
Ouais. Oui, elle se cache derrière un arbre.
Elle se cache derrière un arbre? Alors si tu la vois, faut pas pleurer, hein. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Il y a plein de nouveaux animaux là sur le jardin des pioupiou. Timothée, 151 et toi 8. On met le petit masque. Tac.
Tout va bien, mon doudou.
Ça va. Regarde. Tu vois, tu suis Timothée, ton copain. D'accord, devant? Hop là, badaboum. On rattrape les copains. Hop là. Mais il est trop joli, ton bonnet, toi. Il est trop joli, ton bonnet. On reste debout. Là, aujourd'hui, les conditions, elles sont faciles. J'aime bien ça, quand même. Mais ça, c'est avec l'âge. Quand j'avais 20 ans, j'aimais beaucoup moins venir au jardin. Parce que, ben, quand on n'a pas d'enfant, c'est quand même compliqué de gérer des petits qui pleurent, etc. Clair, on se retrouve un peu, bah, comme quand on devient parent, on se retrouve avec un petit truc qui pleure, on se dit « Oh, pff, comment je fais ?» Que là, quand on est parent, c'est quand même... Voilà, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est quand il y en a un qui pleure, que ce soit l'épidémie de pleurs et que ça se donne à tout le groupe ou tous les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on les prend tout de suite, on va dans le jardin, on leur montre le truc, on stoppe le pleur et après, on peut les ramener avec le groupe.
Ça, les gens, ils le savent pas. Hein.
Non.
Ce côté-là, alors ça, ils le voient.
Ce côté un peu, comment dire, puériculture, non, c'est vrai que ça se voit pas trop. Mais ouais, ça fait partie du travail aussi, ouais. Qui veut faire la grande descente? Moi aussi, hein. Qui veut pincer le bec à Piu-Piu? Ouais. Oh, oh oui. J'écarte les pieds. Comme ça, j'arrive à freiner, regardez. Hop. Encore. Wouah, ça va vite. Oh là là, le chasse-neige en arrière. Debout, on écarte les pieds. Oh là là. Debout. Ouais. Oh là là, mais c'est super, Angèle, ça. Waouh. Hop. Ouais, super, ça. Allez, venez par là, les copains. Tiens, regarde mon chou, on va laisser le masque sur les yeux. Allez, on marche. Allez, vas-y. T'as déjà mal aux jambes? Allez, vas-y, écarte les pieds. Écarte. Hop là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh, j'avais dit d'attendre.
Ah, faut avoir l'œil vif, hein.
Ouais, faut être réactif. Allez, on y va, Valentin. Tu fais des bêtises, toi, Angèle? Ouais. Tu fais beaucoup de bêtises? Tu casses quoi à la maison?
Des boules.
Tu casses des boules? Ah, les boules du sapin! Et alors, papa et maman, ils sont pas contents? Aïe, qu'est-ce que tu fais? Tu les attrapes et tu les jettes par terre?
Ouais.
Oh mais non, il faut pas faire ça.
Ma maman, elle s'accroche là, non. Ma maman, excuse-moi. À la maison du ski, elle a dit si je pleure, j'ai pas droit à la tablette.
Oh là là. Et t'as eu droit à la tablette alors ou pas? Ouais. Bon, super. Et t'as un joli sourire, toi.
Ouais.
Les enfants, ils sont un peu sans filtre, quoi. Donc, mais c'est souvent très rigolo et ils nous racontent un peu les bêtises que font les parents aussi. C'est Ouais, sachez que ce que vous faites à la maison, vos enfants, ils nous disent tout. Regarde-moi, super ça. C'est super ça. Oh là là, mais t'es trop forte. Angèle, c'est une championne du monde.
Et allez, pourquoi pas? Peut-être que parmi ses enfants, certains deviendront de grandes championnes et champions. Cette semaine, la station d'Orcières accueille une manche de Coupe d'Europe féminine. Et l'organisation a été confiée à Alizée. La monitrice devient donc, pour l'occasion, coordinatrice de l'événement.
Ces Coupes d'Europe-là, vraiment, elles sont nées de plusieurs acteurs. Il y a la sécurisation de la piste, les dameurs, il y a aussi tout le service hébergement, communication, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers dans un. Et moi, je m'occupe de coordonner tout ça, donc de faire le lien entre chaque personne et m'assurer que tout se passe dans les temps, qu'on respecte les délais pour qu'on ait les plus belles compétitions possibles. Donc cette année, ce sont les femmes. Normalement, il y a les inscriptions qui tombent aujourd'hui. C'est 2h du mat, quoi. En gros, ils partent de Cham.
Oui.
Et parce que ça court à Cham samedi. En plus, c'est une année qui est vraiment particulière avec les Jeux Olympiques, donc on attend vraiment un beau plateau puisque ce sera la dernière compétition internationale avant les Jeux Olympiques.
En fait, tu peux voir tout le... toute cette partie-là de la piste.
D'accord.
Et là, ce qui est trop bien, c'est que vous voyez les athlètes et surtout, tu as le bruit.
L'idée, c'est que je puisse aussi mettre ma touche d'ancienne athlète. Je sais ce que les filles ont besoin pour performer et j'ai vraiment à cœur de les mettre dans les meilleures dispositions pour réaliser la meilleure performance et ensuite faire rêver les plus jeunes générations.
Moi, je ne suis pas de cette génération, évidemment, mais vous, les moniteurs, vous m'avez fait rêver. Je vous donne maintenant un petit secret. Ici, sur cette photo, c'est moi. Il y a une quarantaine d'années, oui, sur les pistes à Orcières. J'ai eu de la chance que mes parents fassent le sacrifice de me faire découvrir la montagne, la glisse. Je dis sacrifice parce que faire du ski, oui, ça a un coût certain. Vous saviez qu'un tiers des Français n'était jamais allé au sport d'hiver ? Et puis je sens que vous allez me poser une autre question. Est-ce que moniteur, c'est un job en or côté finance ?
Ça dépend si c'est riche de la montagne. Ouais, franchement, on est largement mieux ici qu'en ville, en tout cas à mon avis. Après, riche financièrement, non. Ça varie énormément, déjà en fonction du travail qu'on va avoir. Ça va dépendre des stations aussi. Il y a des stations dans lesquelles les moniteurs ont une meilleure rémunération à l'heure. On ne devient pas riche en étant moniteur. On a plein d'autres avantages, mais on ne devient pas riche en étant moniteur.
Ils sont travailleurs indépendants. Ils payent donc leurs charges sociales, leurs forfaits, la fameuse combinaison rouge, les skis, les chaussures. Et puis, que font-ils le reste de l'année ?
Nous, la saison, elle commence à peu près aux alentours du 15 décembre et elle se termine à peu près aux alentours du 15 avril. Pour la plupart, on a quand même une activité à côté. Moi, je suis photographe vidéaste, par exemple, à côté, donc ça me permet de travailler déjà toute l'année avec des clients en station.
Ce sont d'ailleurs ces images de montagne et de Genépi que vous avez vues précédemment. Alors, on pense connaître les moniteurs de ski. En réalité, quand on les croise, on ne voit qu'une petite partie de leur histoire. Et comme souvent, la vraie vie est bien au-delà du cliché. Oh,